Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour moi.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ne comptez pas sur moi pour parler d'elle ou révéler son prénom. Je ne vous dirai pas non plus à quel moment précis elle faisait des blagues et me rassurait. Mais elle sera assurément l'invitée fantôme de cette émission. Je parle de mon amie imaginaire. Je sais que nous sommes très nombreux à en avoir un ou une, à en avoir eu un ou une. Et il me semble que ce lien si fort survit rarement au passage à l'âge adulte. C'est que l'amitié pour les enfants est un enjeu d'importance, parfois douloureux. Parlons ce matin de cet enfant tout seul dans la cour de récré, ou sur la plage, ou au square. Comment comprendre la difficulté à se faire des amis, à aller vers les autres? Quelle est la valeur du regard des autres pour ces enfants-là? À quoi cela tient-il de se sentir différent ou différente? Et si ce n'était pas si grave, après tout? Le roman qui a remporté le prix du Livre Inter cette année met des mots très justes et infiniment touchants sur la solitude d'un enfant de 10 ans. Le voilà qui se lie d'amitié un été avec un garçon de son âge. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais raconté à hauteur d'enfant, l'aventure est immense. C'est parti, des enfants solitaires.
Dorothée Barba, sur France Inter.
Un jour, ce sera vide est le premier roman d'Hugo Lindenberg qui est mon invité. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, un mois plus tard, vous pouvez peut-être nous raconter qu'est-ce que ça change, ce bandeau rouge sur votre roman en librairie, prix du Livre Inter 2021. Ça a un effet assez spectaculaire sur les ventes, mais pas seulement, j'imagine.
Ça fait très plaisir. On se sent très bien accueilli dans les librairies quand on arrive avec le bandeau sur le livre. Et puis, oui, je reçois beaucoup de messages très agréables.
Beaucoup de retours de lecteurs et de lectrices qui se reconnaissent dans le personnage de votre roman?
Oui, certains, oui, où ça fait écho à des choses de leur enfance.
Ma deuxième invitée est psychologue, autrice de livres pour enfants. Bonjour Elisabeth Bramy.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Mon été pourri chez mamie, c'est le titre de l'un de vos livres éditions du mercredi. Alors évidemment, je cite celui-ci parce que le roman d'Hugo Lindenberg raconte un été passé chez
oui.
une grand-mère.
Absolument.
Vous avez aussi publié Je m'ennuie et alors. Je n'ai pas de copain et alors. Je suis timide et alors. Chez Pocket Jeunesse. Il y a beaucoup de passerelles finalement entre
Énormément,
vous deux.
Énormément, oui.
Il est beaucoup question d'ennui dans le roman d'Hugo. On va y revenir. Quand il est question de solitude chez les enfants, Elisabeth Bramy, on pense assez vite aux enfants uniques.
Oui.
Il y a beaucoup de lieux communs, hein, pas mal de clichés sur les enfants qui n'ont pas de frères et sœurs.
Oui.
Est-ce que ces clichés sont durs à porter pour les premiers concernés?
Écoutez, la condition d'enfant unique n'est pas particulièrement marrante, mais elle est assez passionnante. Parce que l'enfant unique se demande pourquoi il est unique. Là-dessus, il a quand même une sacrée avance sur les autres qui sont élevés en batterie et qui croient qu'ils sont le nombril du monde, mais qui sont quand même dans une mêlée.
Élevés en batterie, c'est ce que vous dites pour les enfants qui ont des frères et sœurs. C'est dur,
l'enfant unique, il sait qu'il est unique et en même temps, ça lui permet de se poser la question de la raison de son unicité. Qu'est-ce qui fait qu'il est seul? Est-ce qu'il y a eu un mort avant, à la Van Gogh? Est-ce qu'il y aura une naissance après? Est-ce que si les parents couchent plus, c'est qu'ils s'entendent plus? Est-ce qu'il va y avoir un divorce qui va leur tomber sur la figure? D'ailleurs, dans la collection, il y a « Mes parents divorcés alors ». Avec la question de la séparation du chien, qui est comme un frère. Et d'ailleurs, j'ai appelé Hugo.
Décidément, encore une passerelle.
Des passerelles, on en a énormément tous les deux. C'est étonnant, moi j'ai lu son bouquin. À chaque fois, je me disais, merde, c'est comme dans le mien. Dans l'ennui, j'ai mis des fourmis. Il y a la voiture rouge, mais il y a tout. Je pourrais vous faire des morceaux choisis en écho avec votre bouquin, c'est hallucinant.
Allez-y, terminez.
Et donc l'enfant unique, il a cette longueur d'avance qu'il sait qu'il est unique. D'ailleurs, tout le monde est unique. Et malheureusement, les enfants ne le savent pas. On est unique. Et on est seul à tout jamais, dans sa peau.
Vous voulez dire que les enfants uniques philosophent plutôt que les autres?
Les enfants uniques ont une vie intérieure beaucoup plus riche, forcément.
Je suis certaine que parmi ceux et celles qui nous écoutent, beaucoup ont déjà lu « Un jour ce sera vide », le roman prix du livre interne. N'hésitez pas à écrire ou à nous appeler pour poser des questions à son auteur qui est là, Hugo Lindenberg en direct, ou pour dire ce qu'a déclenché chez vous cette lecture. Intervenez plus généralement sur le sujet de cette émission jusqu'à 10h. Les enfants solitaires, 01 45 24 7000 ou sur le site ou l'application France Inter. Vous pouvez également laisser une note vocale en passant par l'appli France Inter.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Quelle bête.
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Philippe Catherine et ses bonhommes, la programmation musicale de l'émission est signée Jean-Baptiste Audibert.
France Inter, l'été comme jamais.
Un jour, ce sera vide et publié chez Christian Bourgois. C'est un roman pétri de solitude qui pourtant n'est jamais plombant. Vous écrivez, Hugo Lindenberg, surtout avec une grande minutie, les sensations de l'enfance, l'ennui, la honte, le désir et parfois la cruauté. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur l'enfance ?
Oui, alors j'ai vu le titre du livre d'Elisabeth Brahmi, c'est « Mon été pourri chez mamie », et j'avais un souvenir d'un été pourri chez mamie, mais bizarrement j'avais presque une nostalgie de cette qualité d'ennui que j'ai jamais réussi à retrouver à l'âge adulte, et ça m'a donné envie de retourner explorer ce que cet ennui cachait, et j'ai l'impression que derrière cet ennui il y avait la création, c'est le moment de l'enfance où on crée sa propre singularité, on est très attentif à ses mouvements intérieurs et on n'a pas encore développé les outils de sociabilité qui vont nous permettre d'aller vers l'autre de manière aisée, et donc il y a un moment où on est un peu comme une île. Et on cherche à créer des passerelles vers l'extérieur. Et c'est difficile, c'est d'autant plus difficile pour le personnage que j'ai choisi de raconter, parce que lui doit se construire dans le silence, puisque sa famille refuse de lui raconter son histoire, parce qu'ils veulent le protéger probablement de traumatismes qu'ils ont vécu. Et alors il doit se construire uniquement avec ce qu'il voit, touche, sent. Et donc il se sert très très fort de ses cinq sens pour essayer de comprendre le monde.
Oui, d'ailleurs, il est beaucoup question de couleurs, mais c'est assez frappant de voir que finalement, on en parle, mais elles n'ont pas tellement d'importance. Cet enfant qui l'aperçoit au loin, par exemple, porte un slip de bain rouge ou bleu. Comme si voilà, les couleurs avaient du sens, mais pouvaient être interchangeables.
Oui, je voulais que ce soit important que ce qui n'avait de sens, c'était uniquement ce qu'il percevait. C'est-à-dire que je dis tout ce qui échappe à mon regard n'est que fiction, il dit à un moment. Et c'était important pour moi qu'on comprenne qu'on ne perçoit que ce que lui perçoit.
Le narrateur rencontre un autre enfant sur la plage pendant cet été en Normandie. Cet autre enfant s'appelle Baptiste. Seul Baptiste porte un prénom dans votre livre, Hugo Lindenberg. Pour quelle raison ?
Je pensais beaucoup à des récits un peu comme des contes ou comme Le Petit Prince par exemple, où chaque personnage joue pour ce qu'il représente. Et Baptiste avait un prénom parce que c'est quelque part la création de mon narrateur. Et c'est l'ami qui va l'emmener dans l'eau, qui va l'emmener vers le monde.
Alors c'est donc une rencontre entre deux enfants sur la plage. Le narrateur est en train d'ausculter une méduse échouée sur la plage avec son bâton quand surgit ce garçon. On va écouter un premier extrait de votre roman, Hugo Lindenberg. C'est Frédéric Pommier qui nous fait la lecture.
Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu'on ne voudrait. Alors sans un mot, profitant de la poussée du ressac, j'exécute la manœuvre. Voilà l'animal sans dessus-dessous, ses longs filaments offerts à la morsure du soleil et à notre innocente cruauté. Je m'accroupis pour discerner dans les méandres gluants ce qui pourrait être une larme, un œil, un visage. L'enfant aussi s'approche, frôlant mon épaule de ses cheveux mouillés dont une goutte froide se détache et coule lentement le long de mon bras. Trajet affolant de ce don de sel sur ma peau. On dirait un sac plastique. Je lève le visage vers celui du garçon qui sourit, qui semble souriant autant que je puisse en juger tant je suis ébloui. Par le filet de mes yeux plissés, j'aperçois deux grands yeux verts et entre ses lèvres entrouvertes, l'espace vide laissé par la chute d'une dent. J'imagine, dans un flash, le cadeau ou la pièce glissée sous l'oreiller épais, le baiser d'une mère, des volets qu'on ouvre sur le chahut d'une famille en vacances. On la remet à l'eau. Les mots sortent plus doux que je ne l'aurais voulu. Je trouve ma voix sotte, comme si elle trahissait une vérité qui me paraît soudain tragique et ridicule. Je n'ai parlé à personne d'autre qu'à ma grand-mère depuis mon arrivée. Autant dire depuis toujours.
Un jour, ce sera vide, extrait du roman d'Hugo Lindenberg. Alors, l'écriture à hauteur d'enfant, c'est une alchimie très subtile. Vous ne cherchez pas pourtant à imiter le langage d'un enfant de 10 ans, ni sa façon de parler. Vous écrivez avec des mots de grande personne, Hugo Lindenberg.
Oui, parce que je suis persuadé que les états mentaux des enfants sont aussi élaborés que les nôtres. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément les outils linguistiques pour les décrire. Et comme je disais, je m'intéressais beaucoup à ce que Nathalie Sarraute appelle les mouvements intérieurs. Mmh. Et ces mouvements intérieurs-là, pour les traduire, il me fallait des mots d'adultes.
Les mouvements intérieurs. Elisabeth Bramy, vous parlez, vous, du royaume intérieur. Je retiens une expression dans ce que vient de dire Hugo Lindenberg, c'est la qualité de l'ennui. C'est ça qui frappe à la lecture de son roman.
Bien sûr, et la qualité du silence aussi. Le silence duquel il sort de temps en temps. Mais la qualité de l'ennui, c'est effectivement, comme Hugo le dit, la création. C'est la création. C'est-à-dire que on se souvient de Colette sur son petit mur, toute seule, avec ses mots, petit presbytère. On sait que Bachelard regardait dans les fentes du parquet avant de devenir philosophe, etc. C'est ce qui nous constitue, ce regard qu'on a sur le monde et qui est extrêmement sensuel. Qui part des sens. Alors, ce qui était très frappant dans cette première scène du bouquin, c'est qu'on attaque par la cruauté. C'est-à-dire, on attaque par trouer cette bestiole qui ressemble quand même énormément à un fœtus, à une cochonnerie qui sort d'un utérus, on ne sait pas lequel, et qui pose la question de la sexualité, quoi, quand même. Et il y a un accord qui se fait entre eux. Et en même temps, pour repartir sur des références littéraires, parce que c'est un bouquin qui est très riche, ça ne me renvoie pas qu'à mes littératures à moi, mais à d'autres, c'est que je me suis souvenue de Poil de Carotte, qui est, si ce n'est le personnage le plus solitaire qui soit, sans être enfant unique, puisqu'il était sadisé par le grand frère, la grande sœur, la mère et le père qui était bon à rien, et la scène de la taupe, quand il tue une taupe à un moment, et le splash et les coups de bâton dans le ventre, c'est exactement ça. Donc c'est se battre contre cette chose qu'on ne comprend pas et qui est un peu soi, parce qu'il parle à la fois de la honte, de la tragédie, il y a le mot tragédie dans ce passage.
Il faut rappeler que vous êtes psychologue, Elisabeth Bramy. Cette lecture de la méduse vue comme un fœtus, vous y avez-vous pensé en l'écrivant, Hugo Lindenberg.
Non, j'aime beaucoup l'idée, mais je n'y ai pas pensé. Ce qui m'intéressait dans la Méduse, c'était son statut d'être vivant un peu végétatif. Et comme
et
cet
transparent.
Enfant est transparent. Mmh. Et oui, parce que lui, il est très curieux de savoir comment ça se passe à l'intérieur, parce qu'il aimerait probablement lire les pensées des gens. Et aussi, il est hanté par la question de la mort. Et je pense que, d'ailleurs, dans l'histoire de la solitude, en réfléchissant pour l'émission, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants seuls, des romans ou des chansons ou des films que j'aimais, étaient en fait des enfants en dialogue avec des morts. Et le narrateur de mon histoire, il est en dialogue avec des morts. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui impose une certaine solitude.
Vous parliez, Elisabeth Brami, de la violence de l'enfant à l'égard des méduses. Il y a effectivement des scènes assez frappante, je pense à la scène de la colonie de fourmis que le narrateur va massacrer dans sa cuisine. Vous vouliez aussi mettre des mots là-dessus, Hugo Lindenberg, sur ce qu'on dit finalement assez peu, la cruauté des enfants, parfois.
Oui, la cruauté, évidemment. Et puis là, ça intervient après une scène d'une grande violence, mais que les adultes n'ont pas voulu authentifier. Tout le monde fait comme s'il s'était rien passé. Et lui, il se retrouve tout à coup tout seul dans cette cuisine et il a besoin de décharger cette violence quelque part. Et il le fait sur un théâtre qui a sa propre taille, c'est-à-dire un théâtre de fourmis.
Nous avons un auditeur au Standard de France Inter. Je crois que c'est un lecteur de votre livre. Bonjour à vous, Gérard.
Bonjour.
Vous nous appelez de Nice. Avez-vous lu Un jour, ce sera vide?
J'ai lu Un jour, ce sera vide. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, félicitations, vous avez été élu au premier tour. c'est un bonheur.
Au premier tour, effectivement, ça n'était pas arrivé depuis Daniel Pennac, d'ailleurs, nous a révélé Eva Bétan.
Mais dans le fond, il n'y a pas de secret. Pourquoi ce livre a tellement plu? C'est parce que tout le monde va y trouver des résonances dans des espaces de sa propre jeunesse. Et en même temps, on a l'impression que c'est un livre qui murmure son affection à des gens qu'on aime, des gens qui constituent une famille avec leurs faiblesses, leurs défauts. Et je l'ai trouvé très tendre et très affectueux. Et je me suis demandé, à la fin de cette lecture, si vous alliez écrire d'autres livres. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était un livre qu'on écrivait une fois par rapport à une personne qu'on aime, peut-être une deuxième fois pour son épouse ou son fils à un moment donné, mais j'ai pas eu l'impression que ce soit une production industrielle. En tous les cas, merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire et à vous écouter.
Merci à vous, Gérard, de nous avoir passé un coup de fil ce matin. Merci. Et donc je transmets votre question à Hugo Lindenberg. Y aura-t-il d'autres romans après ce premier ?
J'imagine, j'espère, j'y travaille, mais je suis d'accord que celui-là aura de toute façon un statut unique à mes yeux.
Une saveur particulière. Cette sensation d'être différent, de ne pas être comme les autres, ça tient pas uniquement effectivement à l'histoire tragique et qu'on va pas révéler ce matin de votre narrateur et de sa famille. À quoi ça tient, Hugo Lindenberg?
Moi, je crois vraiment que c'est parce que en tout cas, c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est comment on forge sa propre singularité avant et qu'on n'a pas encore de dialogue, on n'a pas encore suffisamment de tisser de liens avec l'extérieur pour que son dialogue intérieur soit suffisamment riche des autres. Pour déjà y jouer nos propres angoisses en société. Et donc, il y a une sorte de pureté de la solitude à cet âge-là. En tout cas, c'était ça que j'ai voulu inventer pour mon narrateur.
Une question nous parvient par courriel, question d'auditeur. J'ai refermé le livre d'Hugo, Les yeux pleins de lumière estivale. J'ai adoré toutes les descriptions de méduses, des familles sur la plage. J'ai eu l'impression de retrouver mes impressions d'enfant, écrit cet auditeur, mais aussi cette relation particulière et si tendre avec ma grand-mère. Une question quand même, dit-il. Qu'y a-t-il dans le rêve cauchemar dont il s'éveille à la fin? Est-ce l'enterrement d'une amitié?
C'est, disons qu'il a, il a réussi à créer un attachement suffisamment fort avec quelqu'un pour pouvoir aller explorer le monde par lui-même.
Et donc s'émanciper. Elisabeth Brami, vous constatez chaque jour dans votre travail auprès des enfants l'importance immense de l'amitié et en même temps la peur que cela suscite d'aller vers les autres?
Oh, je ne pense pas que ce soit d'abord l'amitié, il y a d'abord les parents. Le boulot des parents. Là, on voit bien l'absence ou le silence ou le secret de famille qui pèse. J'ai adoré, évidemment, la grand-mère qui roule les airs. J'en ai dans mes propres bouquins. Là. Moi, ma grand-mère, elle roule les airs de sa langue étrangère. C'est dans Faut pas pousser papy et mamie dans les orties. Et c'est encore des histoires de... La grand-mère, elle est capitale, parce que les parents sont pas là. Le secret de famille plane, mais on sent la juiverie à plein nez. Ça m'a bien plu, évidemment, personnellement. Et je pense que cet ami, qui sent sable... À un moment, je me suis même dit, en retournant à ma littérature jeunesse, qu'il y a un titre magnifique que vous auriez pu prendre, mais il était déjà pris par Thomas Cotto, c'est « Les sables émouvants ». C'est carrément... c'est ça, quoi. Et quelque chose se clôt et il laisse sombrer cet enfant comme un souvenir qui s'efface, comme le rêve fond le matin au petit déjeuner. Et c'est vrai que ça va le constituer, lui permettre de sortir ses tentacules à lui et aller tripoter les choses à l'extérieur dans le monde. Mais ça se termine quand même sur la grand-mère. Et moi, j'étais très étonnée par votre fin.
Ah non, surtout, on ne dévoile pas la fin.
Non, j'ai pas
donc,
pas du tout.
Non, pas que ce soit un roman à suspense.
Mais non, je ne dévoile rien du tout. Non, je voulais dire que j'avais l'impression, mais peut-être que je me gourre complètement, que l'avant-dernier chapitre aurait été le dernier. Vous voyez, et voilà. Mais c'est passionnant. C'est un bouquin passionnant parce qu'il a plein d'entrées, plein. C'est une richesse folle.
La solitude est affaire de ressenti, Elisabeth Bramy. On peut se sentir très seul et ne pas l'être objectivement. Mais l'inverse est vrai. On peut avoir peu d'amis, aucun frère et aucune sœur et ne pas se sentir seul du tout.
Absolument. Mon gosse dans J'ai pas de copains et alors. La seule torture quotidienne, c'est quand ses parents lui posent des questions sur avec qui t'as joué dans la cour de récré et alors ton copain et pourquoi. Personne ne vient, et pourquoi tu ne fais pas tes anniversaires, et pourquoi tu n'es pas invité? C'est ça qui lui pèse, c'est les questions,
c'est le regard
l'angoisse des parents sur cet enfant qu'ils n'arrivent pas à socialiser. Mais qu'ils fassent leur boulot, les parents, c'est tout. Le gosse, lui, il ne se sent pas si mal que ça.
Nous avons reçu le témoignage de Muriel, qui est fille unique, et qui a passé son enfance seule, entourée d'adultes. La lecture m'a offert une bulle d'imagination, écrit-elle, une bulle d'évasion. C'est peu de dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Un peu jalouse des fratries qui m'entouraient plus jeune, j'ai acquis une grande autonomie et une soif de liberté très tôt, ainsi qu'une certaine maturité. Aujourd'hui, écrit-elle encore, je me sens forte de ce qui m'a construite et je me sens bien partout, seule ou accompagnée. Et la solitude ne me pèse plus, bien au contraire. Témoignage que celui de Muriel.
C'est total, je ne peux pas dire un mot de plus que ça. C'est exactement ça, d'ailleurs je l'ai vécu. Mais en fait,
fille unique aussi, Elisabeth Bramy.
Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à cette invitation à l'émission, j'ai fait le décompte dans mes romans, il y en a quand même pas mal, de combien d'enfants uniques j'avais mis et combien d'enfants avec fratrie. Et
alors,
en fait, il y a une toute petite, ridicule poignée d'enfants à frères et sœurs. Et encore, c'est même pas des situations rigolotes, c'est des situations, par exemple, c'est la quatrième fille du docteur Klein, quoi. C'est mauvaise pioche, c'est la quatrième fille de la fratrie. Et elle en peut plus d'être le quatrième brouillon. Donc,
le quatrième brouillon.
Bah oui, le quatrième brouillon. C'est le seul personnage que j'ai envoyé chez un psy, parce que je m'en sortais pas et elle non plus. Mais on peut se sentir seul. Être heureux de se sentir seul, on peut en souffrir, c'est effectivement lié au nombre de morts et de vivants qu'on a intériorisés, qui nous habitent. C'est très important.
Ouais. Des enfants solitaires, c'est notre sujet jusqu'à 10h sur France Inter, avec vos témoignages et vos questions sur le site de France Inter.
L'été comme jamais. Dorothée Barba sur France Inter.
Reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois? Bourgeons un beau jour la glycine, danse sur le toit. Tes bras, pétales envolés, les rêves. seul s'envole parfois.
Coquelicots le matin sur France Inter. C'était Laura Cahen et Yaël Naïm. Nous parlons des enfants solitaires dans L'été comme jamais avec la psychologue et autrice de livres jeunesse Elisabeth Bramy et avec Hugo Lindenberg dont le premier roman Un jour ce sera vide chez Christian Bourgois a remporté le prix du livre Inter 2021. Une question d'auditrice Elisabeth Bramy. Hélène nous dit qu'elle est la maman d'un ado de 13 ans. Cette année a été très difficile pour lui car il s'est retrouvé seul dans sa classe sans copain. Il les suit, dit-elle, depuis la primaire. Il n'a pas réussi à se faire de nouveaux amis. Il a pleuré plusieurs fois cette année en me disant qu'il se sentait très seul. Et elle dit ceci, j'ai été moi-même une enfant, une ado, une jeune adulte très seule. Et je voudrais savoir si sa solitude à lui peut venir de moi ou comment moi, par mon attitude, j'ai pu enclencher ça chez mon fils, la difficulté à se faire des amis.
C'est curieux de ne pas entendre parler de père là-dedans. Cette mère n'est pas responsable de tout. Elle a fait son gosse avec quelqu'un. Le quelqu'un, je ne sais pas où il est. Mais il serait bien que ce quelqu'un, qui est un homme probablement, enfin peut-être, hein, parce que tout peut exister, puisse aussi être conscient du fait que son adolescent de 13 ans est coincé dans une situation peu agréable. Mais quel adolescent de 13 ans ne se sent pas seul au monde, même s'il ne l'est pas, c'est un statut indispensable. Je veux dire, on ne sait même pas qui on est à 13 ans, on est en train de se transformer en autre chose, enfin on croit, alors que c'est le même qui se développe. Et venir être la situation de nouveau dans une classe, évidemment tout le monde l'a connu, mais depuis la crèche, tout le temps, quand on est déménagé, et c'est hyper désagréable et c'est difficile de ramifier, de s'enraciner. Là, il n'y a pas à se culpabiliser en tant que mère.
Ne pas se culpabiliser, mais ne pas minimiser non plus la souffrance de son enfant.
Ah non, mais il faut rien minimiser du tout. Mais un enfant qui souffre, on le voit, c'est pas parce qu'il a pleuré et qu'il a dit qu'il se sentait seul que c'est encore un drame. S'il arrive plus à bouffer, à dormir, s'il refuse d'aller à l'école, et si on peut suspecter autre chose de bien plus grave et plus important, là oui, on s'alerte. Il y a une relation qui s'établit et de complicité, de moi aussi, j'étais comme toi, comment je me suis décoincée.
Nous recevons pas mal de témoignages d'auditeurs et d'auditrices sur les déménagements, en effet, notamment celui d'Amélie, dont le fils rentre en sixième et qui a dû déménager pour des raisons professionnelles. Comment gérer la situation avec
les
enfants?
C'est très rigolo parce que je suis complètement là avec ma collection sur le 9e sur la mort et j'ai écrit ma meilleure amie a déménagé et alors
c'est un immense sujet.
Mais
ça,
c'est
pour
un immense
enfant.
Sujet absolument. C'est-à-dire que ce qui est on parlait tout à l'heure de la solitude, de la fierté d'être seule, mais les parents par l'éducation sont censés donner une certaine autonomie à l'enfant. Donc, il ne doit pas se sentir complètement mal d'être seul. Il faut qu'il soit lancé dans la société par les amis, les cousins, tout ce que les parents offrent d'ouverture sur le monde. Il y a des parents qui ne l'offrent pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans un déménagement, quand l'enfant est petit, qu'il ne sait pas lire, écrire, etc., comment on fait pour lui conserver cet ami si précieux dont parle Hugo, qui est capital, qui est vital, son alter ego, qui est à la limite même totalement imaginaire peut-être, qui est finalement ce cher Kitty que mettait Anne Frank dans son journal, alors qu'elle avait une sœur. Donc, comment le préserver de la rupture, de cette séparation qui va lui faire beaucoup de mal? C'est aux parents de faire leur boulot. La petite, dans mon roman, sa mère a fait tourner à la machine son jean avec le numéro et l'adresse, la nouvelle adresse de la petite qui est partie quelque part en Suède avec ses parents. C'est une catastrophe. C'est la môme, elle peut plus vivre. C'est normal.
Je vous propose qu'on se replonge à nouveau dans votre roman, Hugo Lindenberg, un extrait du chapitre 12, Les garçons.
Rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge. À cause sans doute de cette ressemblance supposée. Baptiste, par exemple, a toujours l'air de faire partie du décor. À tel point qu'à force de plage, sa peau semble faite du même grain que le sable. Les vacances lui vont bien. Il en épouse si aisément l'onde qu'il me faut toujours un temps pour distinguer sa silhouette lorsque je le cherche dans la cohue. Il est le mouvement. Son corps met le monde en mouvement, alors que tout semble buter sur le mien. Il y a quelque chose en moi de pétrifié. Ça le fait rire d'ailleurs, parce que je n'arrive à rien, ni à tenir sur une planche, ni à nager le crawl, ni à faire la roue. Tout ce qui va trop vite m'effraie. Mais ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire, et dont je suis incapable qui me fascine le plus. Ce qui fait de Baptiste un garçon exceptionnel, c'est qu'il n'a besoin de rien pour en être un. À moi, cela demande une concentration permanente. Je dois toujours bien penser à mettre une intention de garçon, de ce que j'imagine être un garçon, dans chaque phrase, chaque geste, chaque idée, parce que je vis dans la peur d'être démasqué, et cette peur est d'autant plus difficile à maîtriser que je n'ai qu'une idée grossière de ce que doit dire, faire ou penser un vrai garçon.
La solitude de ce narrateur, Hugo Lindenberg, est aussi liée à une affaire de genre, finalement. Comment être un vrai garçon sur la plage? C'est très étonnant, cette façon qu'il a de se comparer aux autres garçons et à ne pas pouvoir définir ce qu'est un vrai garçon. Il parle aussi des vraies familles, d'ailleurs.
Oui, pour moi, c'était plus large que les questions de genre, même si la question de genre est à l'œuvre chez ce garçon. Mais son ami Baptiste, c'est l'archétype de l'enfant dont l'inscription dans la société est assurée. Il a une famille qui lui parle, il sait d'où il vient, ils vont au catéchisme. Alors que le personnage du narrateur, lui, il n'a pas de script pour avancer dans la vie. Et c'est pour ça qu'il est pétrifié, qu'il est fasciné par l'aisance avec laquelle son ami Baptiste se met en mouvement. Et lui, il ne sait pas quoi faire parce que tous les gestes qu'il doit faire, il doit les inventer, il n'a pas de modèle.
J'ai été très touchée par une scène en particulier, celle où la mère de Baptiste essaye de parler au narrateur du roman. « La différence, tu verras, c'est une force, dit-elle. Plus tard, ce sera ta force. » Elle lui répète qu'il faut qu'il s'ouvre. Pourquoi ces mots-là sont-ils si durs à entendre pour lui? Est-ce parce qu'il y entend de la pitié?
Oui, parce qu'il y entend de la pitié, et puis parce que il avait forgé un lien fort avec cette femme, de complicité, et le fait que tout à coup elle porte sur lui un regard qui jugeant, même s'il est aimant, lui n'a pas l'habitude qu'on s'occupe de lui, et du coup il est complètement paniqué par cette idée qu'elle puisse l'aimer en étant un peu dure avec lui, et du coup il prend la fuite.
Et elle lui dit aussi qu'il n'y aura pas toujours des Baptistes sur son chemin, puisque son fils à elle, Baptiste, effectivement est bienveillant avec ce garçon. c'est assez terrible d'imaginer qu'on prévient ainsi un enfant de 10 ans qu'il n'y aura pas toujours des gens gentils pour s'occuper de toi.
Oui, je crois qu'elle lui donne un bon conseil à ce moment-là. Ouais. C'est comme ça qu'elle l'aide aussi à s'émanciper.
Et à s'éloigner de Baptiste. Mmh. On va écouter à nouveau un de vos lecteurs, Alessandro, qui était, je crois, membre du jury du prix du Livre Inter, nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter.
Bonjour, je faisais partie du jury qui a décerné le prix à Haute-Gollinemberg, je le félicite encore. Ce que je voulais dire, c'est que la solitude de l'enfance, la curiosité de l'autre, la fracture de classe, la mémoire comme trauma, voici les moments de la vie d'un enfant qui deviennent des thèmes littéraires, des sensations universelles grâce à la force d'un style qui sait se trouver justement dans sa pudeur. Et c'est ça qui est très, 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 très beau.
C'est un mot important qui vient d'être prononcé, la pudeur, Hugo Lindenberg. Vous aviez ce souci de laisser planer la pudeur sur votre roman ?
En tout cas, qu'il y ait beaucoup de hors-champ, lui, mon personnage, ce que je voulais, c'était qu'on soit plongé avec lui dans l'action, l'événement de sa propre vie, et c'était évident pour moi qu'il pouvait pas être dans l'auto-apitoiement, ou sinon ça n'avait aucun intérêt. D'ailleurs, il n'est jamais triste pour lui-même, il veut juste avancer, quoi.
Il est jamais triste pour lui-même, vraiment.
C'est un peu une diva, donc il s'est plaint. Mais...
Et cette rencontre avec Baptiste, effectivement, le change. Il se construit dans le regard de son ami. Il se met, et c'est très nouveau pour lui, à ressentir de la fierté, à vouloir être vu, notamment sur la plage. Mais parfois, cette confiance qui est assez fragile va s'étioler, notamment lorsque Baptiste nage derrière lui et qu'il se met à avoir l'idée qu'il a inventé cet ami. Ça, c'est sidérant. Est-ce que tout ce qui échappe à notre regard est de la fiction, Hugo Lindenberg ?
C'est une question que j'ai voulu poser au lecteur, justement. Et j'aimais bien cette idée qu'il est dans un monde où tout est très fragile, puisque ses parents ont disparu, la plupart de sa famille a disparu. Donc il ne prend jamais la présence physique de l'autre pour acquise.
Mais il vit dans un roman, alors ?
On vit tous dans des fictions.
Elisabeth Bramy, je vous soumets à nouveau un message d'auditrice, auditeur, pardon. J'ai grandi dans une fratrie de 6 enfants, écrit-il, dont je suis le dernier, et j'étais malgré tout très solitaire, parce qu'en décalage d'âge, j'étais souvent seule, mais j'ai développé de l'imagination et de la créativité. Adulte, bien que très sociable, je reste une personne solitaire, mais qui ne s'ennuie jamais, car j'ai appris à faire sans les autres. Voilà un enfant solitaire dans une famille nombreuse.
Bien sûr, formidable. Moi, j'ai connu une petite dans une famille de 10. Quand elle est arrivée, il devait être 7 à peu près, elle devait être la 7e. Elle a développé une faculté incroyable qui était l'insomnie pour pouvoir jouir de ses nuits, de son temps, de son intimité. Elle ne pouvait pas supporter partager sa chambre avec 2-3 autres. Et il fallait à tout prix qu'elle puisse lire. On parlait tout à l'heure, c'est bien sûr qu'on est sauvé par la littérature quand on est seul, bien sûr. Moi, les bibliothèques m'ont sauvé la vie, c'est évident. Les personnages des romans deviennent vos frères, vos sœurs. Quand je dis Anne Frank, c'est ma sœur. Quand je dis Poil de Carotte, c'est mon frangin. C'est des gens qui m'habitent, quoi.
J'aimerais aussi qu'on dise un mot de la honte, parce que Hugo Lindenberg, le personnage de votre roman, a honte de sa tante qui est handicapée mentale, qui est physiquement... il a honte d'elle quand elle arrive sur la plage. C'est à la fois très cruel, parce que voilà, c'est pas des choses qu'on formule souvent, cette honte de sa propre famille, et en même temps très juste. Le lecteur, la lectrice va forcément trouver quelque chose d'universel en lisant ces lignes. C'était important pour vous que la honte soit omniprésente dans ce livre ?
C'était très important, la honte, parce qu'il il entretient une relation un peu fusionnelle avec la honte, et puis le personnage de cette tante qui est folle aux yeux de la société, mais c'est d'autant plus douloureux pour lui parce que elle est folle de l'histoire de la famille. Donc c'est une folie qui rejaillit complètement sur lui, et son corps, il est déformé par cette folie. Et ça le renvoie vraiment à... Ça le dégoûte. Et ça m'intéressait qu'à travers le dégoût de cet enfant, on comprenne qu'il y ait beaucoup d'amour.
Il est cruel avec les animaux, il a honte de sa famille. Il y a aussi un portrait... Un anti-portrait de l'enfance. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, ou que les enfants sont formidables, qu'ils sont si mignons. Vous écrivez le reste, Hugo Lindenberg.
Ah oui, en tout cas, j'avais pas du tout cette vision de l'enfance comme quelque chose de très pur, et du coup, ça m'intéressait d'aller chercher dans d'autres régions.
Une auditrice au bout du fil. Bonjour à vous, Annette.
Oui, bonjour Hugo. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Lindenberg pour ce livre que j'ai adoré et que j'ai tellement adoré que quand je l'ai lu, j'ai envoyé un message à mes amis. Je savais qu'il était sur la liste du Livre Inter. J'ai dit, si ce livre n'a pas le prix, je mange mon chapeau. Ah. J'ai adoré ce livre, vraiment. Alors, vous savez, voilà ce que j'ai ressenti, moi, pour cette amitié et ces sentiments un peu qui sont analysés si finement. Ce petit garçon qui vient au monde comme tout le monde avec une histoire familiale et une histoire collective, il voit Baptiste comme celui qui est bien à sa place. Voilà, parce que je crois que quand on vient d'un milieu d'immigrés, d'un monde différent, on a toujours, et toute sa vie, et je peux en parler parce que c'est mon cas, de ne jamais être tout à fait à sa juste place. J'appelle ça le cul entre deux chaises, alors c'est parfois un peu douloureux, mais c'est très riche aussi. Et Baptiste, pour moi, c'était le blond de Gad Elmaleh. Vous savez, Gad Elmaleh, oui, quand il parle du blond, c'est ça, c'est exactement ça. C'est celui qui est à sa place, qui fait tout bien. Bien sûr, j'ai adoré la fin, voilà, que j'ai vécu comme la mort de l'enfant idéal, de l'ami idéal. J'ai trouvé que tout était magnifique dans ce livre. Vraiment, c'est un joyau. Ce livre, un joyau pour moi.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci mille fois, Annette, de nous avoir appelé. Merci pour cette jolie fiche de lecture, si j'ose dire. Effectivement, le blond de Gad Elmaleh, très bonne comparaison, sauf que le blond est exaspérant dans les sketchs de Gad Elmaleh. Alors que ce Baptiste, Hugo Lindenberg, l'ami du narrateur, il incarne toutes les familles normales. Il fait envie, on a envie d'être à sa place. Il n'est pas tellement exaspérant, à vrai dire.
Oui, je connais pas la référence, mais je sais pas si on a envie d'être à sa place, mais en tout cas, je voulais pas que, parce que il incarne cette perfection à laquelle tend le narrateur, il soit pour autant un personnage méchant qu'il rejette. Je trouvais ça très important qu'il ait cette bienveillance.
C'est toute la subtilité, en effet, de ce personnage. Il est bienveillant.
Oui, il est bienveillant. Comme il est à sa place, justement, il n'a absolument pas peur. Et au contraire, il est très content d'être un peu dérangé et interrogé par cet enfant un peu étrange qui ressemble pas à ce qu'il voit d'habitude. Il dit d'ailleurs, t'as de la chance parce que moi, je suis rien.
Qui dit ça?
Baptiste, à son ami, oui.
Moi, je suis rien. Alors voilà qui fait écho à ce que vient de nous dire cette auditrice. Moi, je suis rien parce que j'ai pas d'histoire familiale. Original, entre guillemets.
Exactement. Du coup, il se sent face à ce personnage, face au petit narrateur, il se sent d'une grande banalité. Et du coup, lui, il est très intrigué, très intéressé. Et même toute la famille de Baptiste, finalement, est contente de recevoir chez elle ce petit garçon qui a cette histoire, qui a cette singularité, justement, qui leur manque peut-être un peu.
La souffrance, effectivement, peut susciter de la pitié, mais aussi une curiosité déplacée à l'égard de cet enfant.
Mais elle n'est pas déplacée, en l'occurrence, parce que la mère de Baptiste, par exemple, ça fait écho, je crois, à sa propre histoire. Et c'était aussi une manière d'ouvrir, parce que finalement, moi, ça m'intéressait moins l'histoire de ce petit narrateur que l'état dans lequel ça le mettait et qui renvoie finalement aux enfances de chacun.
Tenez, j'ai une question d'auditeur très concrète, Elisabeth Bramy. Un auditeur nous demande si vous conseillez ce roman, Un jour ce sera vide, la lecture de ce roman aux enfants, et notamment à un enfant de 10 ans, mais qui est l'âge du narrateur et de Baptiste.
J'ose dire qu'on est en train de montrer de façon évidente, en fait, qu'il n'y a pas de ghetto jeunesse et de ghetto vieillesse en littérature, et que, bien évidemment, ce roman peut être lu à tout âge, le roman d'Hugo,
Et les
livres jeunesse,
pour les grandes
bien
personnes.
Évidemment, et même les albums font du bien aux grandes personnes et ils y comprennent quelque chose à leurs gosses quand ils lisent à leur enfant. Ça permet d'entrer. Moi, je crois que c'est la grande force de soi. Bah, évidemment, La vie devant soi, qu'est-ce que c'est? Qui le lit? Vous voyez bien. Charles Dickens n'a pas écrit pour les enfants, du tout. Hector Malot non plus. C'est des gens qui ont écrit.
La littérature jeunesse n'existe pas.
La littérature jeunesse... un jour, j'ai trouvé une définition rigolote, parce qu'on me demandait, j'ai dit, c'est la littérature vieillesse moins les rides. C'est tout.
C'est l'été comme jamais, sur France Inter, jusqu'à 10h, avec Elisabeth Bramy et Hugo Lindenberg.
Choice is stark, came two by two. Will it come for you? Noah built the ark before the day was dark. Run from the fray, you will sail away. And the waters rise, thunder in the skies. And the waters rise on the plank for the last light dies.
C'était Pierce Faccini et Ben Harper sur France Inter. Nous approchons de la fin de cette émission. J'ai une toute dernière question à poser à mes invités, Hugo Lindenberg, romancier, lauréat du prix du Livre Inter, et Elisabeth Bramy, psychologue et autrice de littérature, pas jeunesse, littérature tout court. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, Elisabeth Bramy.
Mais écoutez, je vais vous dire un truc. J'ai cherché. Et je n'ai rien trouvé.
Mais non.
Mais je vous jure.
Mais vous savez qu'il y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis.
Mais oui, je sais. Bah, doit être une imbécile, mais c'est pas grave. Au moins, maintenant, je le sais.
Non, sérieusement.
J'ai cherché dans ma tête de quoi vous y péter, émerveiller les foules, une idée géniale. Je n'ai retrouvé qu'un vieux souvenir d'enfance quand j'ai décidé que le Roquefort, c'était dégueulasse.
Mais je prends le Roquefort.
Alors, prenez le Roquefort parce que je n'ai trouvé que ça. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai refusé d'y goûter. Et en grandissant, et j'ai trouvé ça c'est intéressant finalement, je me suis dit, va falloir quand même que je regoute, parce que autrement, je vais passer ma vie à côté de... peut-être qu'il est bon. Et là, ça a été le coup de foudre pour tous les fromages bleus.
Voilà. Oui. Bon. Vous voyez que vous avez
c'est un peu débile, mais enfin, c'est pas grave.
C'est pas du tout débile. Elle a changé d'avis sur le Roquefort. Et vous, Hugo Lindenberg, sur quel sujet avez-vous changé d'avis?
Je comprends très bien Elisabeth Bramy, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver aussi quelque chose. Mais j'ai fini par me dire, en lien avec l'enfance, que quand j'étais petit, j'étais toujours vraiment étonné quand les gens disaient « j'ai eu plusieurs vies ». Je me disais « mais quelle immense trahison, n'importe quoi ». Et maintenant que j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies déjà.
Parce que vous étiez journaliste et que vous êtes désormais romancier? Ça fait plusieurs vies? Ou c'est pas du tout professionnel comme sujet?
Si, ça peut être aussi professionnel. Et j'ai repris des études.
Ah, plusieurs vies.
Bienvenue donc au club.
Un jour, ce sera vide. Prix du Livre Inter, Hugo Lindenberg, c'est à mettre entre toutes les mains. On l'a bien compris ce matin. Christian Bourgoin, éditeur. Elisabeth Bramy, on trouvera à la page de l'émission sur franceinter.fr la très longue liste de vos livres pour enfants et pour grandes personnes. Je signale que le livre que vous avez coécrit avec Patrick Delaroche sur Françoise Dolto va être réédité chez Albin Michel. Ça s'appelle Dolto, l'art d'être parent. Merci à tous les deux et très bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Dans un instant, ce sera Charles Pépin sous le soleil de Platon.